dégustation de produits du terroir, cuisine de rue, microbrasserie et activités familiales sur place. Ne manquez pas l'événement gourmand incontournable de l'été. Les Fêtes gourmandes de Neuville, une présentation de la Ville de Neuville et Desjardins. Billets en vente au fgdn.ca.
C'est bien connu. Québec, Rock City. On est une ville de rock. Boulevard 102, sur les plaines, au centre Vidéotron ou dans votre char. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.1. Boulevard 102.1. Votre partner de show. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102, en espérant que vous ayez passé une belle fin de semaine. Moi, de mon côté, ça a bien été, en espérant que mon invité de ce soir aussi a passé une belle fin de semaine, puisque c'est les lundis avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci d'être là. Je sais que vous êtes un homme très, très, très occupé, puis c'est toujours surprenant pour moi de vous avoir à chaque lundi soir, puis les auditeurs apprécient grandement. Donc, je vous remercierai jamais assez, Maître Bellemare.
Ah, c'est un rendez-vous incontournable pour moi. J'ai beaucoup de plaisir à parler aux auditeurs, à te parler à toi aussi. Et, ben, coudonc, c'est le soir des fleurs. Alors, Yann, je te félicite pour ton travail. Je le fais pas souvent, mais là,
c'est
vraiment,
le soir.
Là, puis passer une heure avec moi, là, ça prend beaucoup de caractère. Alors, oui. Je te félicite.
Ben,
pour ta patience et ton indulgence.
C'est ça. Ben, avoir un avocat pendant une heure, d'habitude, ça vaut une fortune. Là. Ben, je vous ai gratis.
Ah, t'as pas reçu mon compte?
C'est pas moi qui le reçois. Maître Bellemare, vous avez été ministre de la Justice pendant un certain temps. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière. Vous savez ce que c'est, ce que ça comporte d'être ministre. Puis je me dis, peut-être qu'une fois de temps en temps, vous pensez encore à ce temps-là. Là où, quand vous voyez des trucs dans l'actualité qui touchent, exemple Bernard Drainville, qui, le gars avait une belle job en communication, avait le gros salaire et tout d'un coup décide de retourner en politique, se ramasse avec la coalition Avenir Québec, on lui donne un mandat, c'est-à-dire d'être ministre de l'Éducation, et le gars semble pas être super bien dans ses bottines, se fait contester à chacune de ses entrevues. Ça n'a pas l'air d'une job facile, sérieusement.
Ben, c'était mal parti pour M. Drainville, parce que même en campagne électorale, je ne sais pas si tu te souviens, d'abord, il y a eu le transfert du Parti québécois, où il avait été ministre avec Mme Marois,
ouais.
Entre 2012 et 2014, avec la Charte des valeurs, un souverainiste convaincu qui s'en va à la CAQ. Là, il nous dit que finalement, il croit au Canada, peut-être pas tellement, mais il croit au Canada, puis il a mis de la souveraineté de côté. Ça a été le premier élément qui a été un peu douteux chez M. Drainville. On en doute encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et l'autre chose qui avait tanné un petit peu, c'était au niveau des GES. Là, vous souvenez-vous, sur le troisième lien, sa profession de foi pour le troisième lien, qui était tout à fait imprévisible. Puis là, chez moi, avec les GES, c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si les GES n'existaient pas. C'était pas très nuancé. Et ça avait l'air à dire, on s'en fout des GES, puis il y a des chars, il n'y a pas de problème. Alors ça, puis le troisième lien aussi, évidemment, qui était un peu le propos là, principal de son intervention à côté de M. Legault. Alors, ça a été très controversé, même en campagne électorale. Puis je suis convaincu que si... M. Legault avait abandonné le troisième lien avant l'élection, parce que, à mon avis, c'est clair que sa décision était déjà prise avant l'élection, qu'on s'est fait passer un méga hot dog. Mais si Drainville n'avait pas eu le troisième lien, il n'aurait jamais été élu. Mme Biron non plus dans Chaux de la Chaudière. Alors, ça partait comme ça. Après ça, il s'en va à l'éducation, puis là, C'est sûr que le ministère de l'Éducation, c'est beaucoup, beaucoup de sensibilité. Hein? Tu as des enfants, tu le sais. Quand ça touche l'éducation, ça touche nos tripes, ça touche nos bébés, nos enfants, maternelle, primaire, secondaire, nos ados. Et on veut le mieux pour nos ados. Puis quand on voit que les écoles s'en vont tout proche, bien, ça nous affecte parce qu'on se dit quel genre d'éducation ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont savoir écrire, lire, compter comme faux? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'important dans la vie? Est-ce qu'ils vont avoir du succès? Est-ce qu'ils vont avoir une belle culture personnelle? Alors, tout ça passe par l'école. Puis bien, il y a un ministère qui est très sensible. Puis c'est ça, il va de controverse en controverse. Mais je ne suis pas sûr qu'un autre ministre, là... aurait plus de succès. Lui, il parle, il est assez franc, il dit ce qu'il pense. On parle souvent de la langue de bois chez les politiciens, puis on dit ça n'a pas de bon sens, c'est la cassette, puis tout ça, mais on peut dire, le moins qu'on peut se dire de M. Drainville, c'est que c'est pas une cassette.
Non.
Ça y va par là, puis évidemment, ça fait la nouvelle une couple de jours.
Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que Bernard Drainville, bon, il était ministre de l'Éducation, mais il avait accordé une entrevue à Michel David du Devoir, une entrevue qui était filmée et que Michel David a diffusée. Et Michel David lui avait posé la question à M. Drainville, pourquoi un enseignant au Québec ne peut-il pas être payé aussi cher que son homologue ontarien? Alors qu'un élu de l'Assemblée nationale sera mieux payé que n'importe quel autre député au Canada, à l'exception des élus de la Chambre des communes à Ottawa. Et là, Bernard Drainville avait regardé Michel David et lui avait dit « Tu compares vraiment la job d'enseignante à celle d'un député? » comme si la job d'un député, c'était plus intense que la job d'un enseignant ou d'une enseignante. Moi, je peux vous dire que j'ai été donner des petits cours là, aux primaires là, pour des élèves pendant un certain temps. Puis le soir, quand j'arrivais chez nous, Maître Bellemare, là, j'étais épuisé. Puis j'ose pas imaginer les enseignants à l'époque. Ben, j'ose pas imaginer des enseignants actuellement qui ont des jeunes enfants aussi à la maison, puis ils ont les enfants aussi la fin de semaine. Des fois, les enseignants, je trouve qu'ils l'ont pas facile. Mais de voir à quel point Bernard Drainville semblait mépriser le travail des enseignants puis aduler le travail des députés, c'était particulier pour un ministre de l'Éducation.
Ouais, c'était pas une comparaison à faire.
Non.
Puis même si on peut, j'imagine que le nombre d'heures consacrées à un job de ministre de l'Éducation est légèrement supérieur à la plupart des enseignants du Québec, on commence pas à faire de la comparaison comme ça parce que c'est toujours perçu négativement, puis t'as jamais raison. Tu sais, quand tu fais des comparaisons, t'as jamais raison. C'est toujours boiteux. On n'a pas vraiment de paramètres précis pour pouvoir faire des comparaisons, mais de toute façon, politiquement, c'est inadmissible parce qu'en politique, tu n'as jamais raison, à moins d'avoir quelque chose de très, très, très précis et d'être capable de t'appuyer sur des études, immenses et récentes, incontestables, comme des recensements, par exemple. Recensement sur l'état de la langue, recensement sur l'immigration, où tu as des chiffres précis qui sont incontestables. Tu ne fais pas des comparaisons comme ça parce qu'effectivement, dans un milieu fortement syndiqué comme l'éducation au Québec, qu'est-ce qui se passe? Bien, les ténors, les chefs syndicaux n'attendent que ça pour blâmer le ministre. Puis le ministre paraît mal. Puis là, c'est les enseignants. Puis quand c'est pas les enseignants, c'est les parents. Parce que c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? T'sais? Il a dit, mais encore là, il a dit ce qu'il pensait. Alors là, bon, monsieur le ministre a fait une gaffe, mais tous les autres ministres de l'Éducation depuis 30 ans pensent la même chose. Mais lui, il l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut une langue de bois, puis on veut avoir le fond de sa pensée, quitte à ne pas partager son point de vue, ou bien si on veut avoir une langue de bois qui va nous raboter des généralités, puis on ne saura jamais ce qu'il pense. Alors, moi, je suis plutôt partisan de la franchise, puis du gars qui assume, puis qui vit avec ses décisions, même si suite à cette déclaration malheureuse-là, il s'est excusé, hein.
Ben, il n'y avait pas le choix, mais tu sais, mettons qu'on revient en 1950, Maître Bellemare, l'homme travaillait énormément, la femme restait à la maison, travaillait énormément aussi, avait 4, 5, 6 enfants. C'est comme si le gars revenait à la maison en faisant des reproches à sa femme, comme quoi elle faisait pas grand-chose comparativement à lui. Je veux dire, chacun avait sa tâche à l'époque, chacun travaillait extrêmement fort. Tu peux pas revenir à la maison en disant des reproches alors que l'autre travaille énormément, là, tu sais. J'avais trouvé ça... particulier, puis un petit manque d'empathie envers la job de prof qui est vraiment pas évident. Je veux rester dans le milieu scolaire, Maître Bellemare, parce que la semaine dernière, je me trompe pas, cet article-là date de vendredi matin. On sonne l'alarme concernant les cellulaires en classe, les cellulaires à l'intérieur de l'établissement scolaire. On parle maintenant, je ne sais pas si c'est exagéré, là, peut-être que c'est moi qui n'ai pas été dernièrement dans les écoles secondaires, mais on parle d'un véritable phénomène de santé publique, un problème. On dit que les jeunes maintenant, en raison de leur cellulaire, souffrent d'anxiété, d'isolement, de problèmes alimentaires, de cyber-intimidation, de dépendance aux jeux vidéo. Même les parents, on constate qu'il y a des parents qui sont en détresse parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec leurs enfants, parce qu'ils ne sont pas capables de se débarrasser de leur maudit cellulaire. Maître Bellemare, qu'est-ce qui se passe en 2023 pour qu'un enseignant ne soit pas capable de dire à un élève « Là, ton cellulaire, tu le laisses dans ta case, je ne veux pas le voir, sinon je te l'enlève pour la semaine. » On n'est plus capable de faire ça en 2023, c'est considéré comme de la cruauté humaine de retirer un cellulaire?
Ben moi, je trouve que c'est déplorable parce que moi, je suis contre le cellulaire en classe. Le cellulaire dans une activité fermée, temporaire, que ce soit dans un, je sais pas moi, dans un cinéma, que ce soit dans une salle en milieu de travail, que ce soit à l'école, c'est une distraction importante. C'est une distraction. Les adultes réussissent peut-être un petit peu mieux à s'affranchir du cellulaire. Il y a des pauses au travail, il y a des moments pour ça. Tu travailles comme électricien, tu travailles comme plombier. Tu peux pas avoir des appels à tout bout de champ, tu peux pas avoir des nouvelles à tout bout de champ, tu peux pas avoir des alertes à tout bout de champ. Fait que tu fermes ton cellulaire, c'est normal. Les enfants, c'est différent parce qu'il y a les jeux aussi. Et ils ont des cellulaires de plus en plus jeunes. Et pour avoir une attention nécessaire pour l'apprentissage, ça prend de la concentration. Moi, j'ai vécu dans une époque où il n'y en avait pas de cellulaire. Et j'avais de la misère à me concentrer à l'école. Des distractions, c'est le voisin qui joue avec son crayon, toc, toc, toc. L'autre qui te fait des signes pour aller jouer aux billes à récréation. L'autre qui t'envoie une boule de papier. Le professeur qui fait une joke. Les oiseaux dehors quand il y a des fenêtres. Le temps, la température. Alors, c'est difficile de se concentrer sur ce qu'un professeur nous dit, nous enseigne. Les mathématiques, le français, la mémorisation. Il y a beaucoup ça prend des bonnes facultés cognitives pour apprendre. La concentration, la mémoire, l'énergie que ça demande. Puis là, tu as un cellulaire qui rentre en compétition avec ton professeur et l'activité que tu fais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça et on devrait les interdire à l'école. Il y a une boîte à l'entrée, là, tu mets ton cellulaire là. Tu le reprendras peut-être à récréation, puis peut-être même pas. Parce que si à récréation, tu es ta maudite machine, mais tu ne joues pas au ballon, tu ne socialises pas. Puis tu bouges pas, tu sais, dépenser de l'énergie pour pouvoir rentrer à l'école après, être capable de poursuivre ton avant-midi ou ton après-midi. Alors, on laisse le cellulaire dans la boîte le matin, puis on le reprend le soir. C'est déjà pas mal, parce que ça permet aux jeunes d'avoir son cellulaire en tout temps en dehors de l'école. Mm-hmm. Mais ça devrait être une nécessité, à mon avis, si on veut avoir des élèves qui fonctionnent. Il faut comprendre qu'on sort d'une pandémie où pendant 2 ans, on avait juste ça. Puis nos enfants ont grandi avec ça, fait qu'ils ont développé une dépendance et il faut être capable de les ramener à une attention totale et complète pour permettre leur apprentissage, pour qu'ils deviennent des adultes accomplis.
Moi, je suis un peu perplexe par rapport à cette nouvelle-là ce matin, puis je suis content d'entendre votre opinion parce que ça me fait un peu évoluer dans la mienne. À la base, puis peut-être que je pourrais rester sur cette opinion-là, mais à la base, je me disais que l'école secondaire, pas l'école primaire, mais l'école secondaire, était là pour préparer l'étudiant au merveilleux monde des adultes, au merveilleux monde du marché du travail. Et dans le marché du travail, ben, tu auras à effectivement utiliser ton cellulaire en même temps que le travail, puis tu vas devoir avoir une certaine responsabilité, comme vous l'avez dit tantôt. T'sais, quand c'est le temps de travailler, c'est le temps de travailler, puis quand ce sera la pause, tu pourras faire ce que tu veux. Si tu veux communiquer avec tes amis, tu pourras le faire pendant la pause. Et je me disais, tu sais, toute notre vie, on va avoir cette boîte-là dans nos mains pour pouvoir communiquer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir échanger, pour rester en contact avec notre famille. À l'école, je me disais qu'on pourrait peut-être, au moyen de je sais pas, de certains enseignements, de montrer à l'élève qu'il doit utiliser son cellulaire à bon escient plutôt que de l'utiliser tout le temps pour des maudites niaiseries. Ce que vous me dites là, c'est de la privation totale, c'est-à-dire que à l'école, à l'intérieur de l'établissement, techniquement, tu ne devrais pas avoir ton cellulaire pour pouvoir socialiser avec les amis et apprendre d'autres choses que ce que tu vois sur ton maudit cellulaire ou TikTok ou les réseaux sociaux. T'sais, tu veux communiquer, bien, communique avec des êtres humains plutôt qu'avec des gens qui sont à l'extérieur puis qui sont directement sur leur cellulaire aussi. Je trouve qu'il y a une certaine... Ben, en fait, c'est extrêmement logique ce que vous me dites, mais la privatisation... Je ne suis pas sûr que le jeune au secondaire va apprendre de ça, puis rendu sur le marché du travail, il va laisser son cellulaire dans son char pour ne pas l'utiliser justement, sa job. Je me disais dans ma tête que l'école servait justement à montrer à l'élève, ça c'est dans ma tête, là, je vis souvent dans un monde utopique, là, mais l'école servait à montrer à l'élève que oui, tu peux l'utiliser ton cellulaire, mais à condition que ce soit une utilisation responsable. T'sais. Je voyais pas la privation comme étant positif pour un élève, Maître Bellemare.
Bien, c'est certain que si tu as une activité qui implique le numérique, si l'activité scolaire consiste à apprendre comment fonctionne, je sais pas, tu es en bureautique, puis tu vas apprendre comment fonctionne Word, Excel, etc., bon, c'est différent. Mais si tu as une activité de lecture, tu as une activité de discussion en groupe.
Ouais.
Tu as une activité de rédaction. Tu as une activité qui consiste à connaître certains auteurs en littérature ou tu as une activité qui consiste à apprendre de l'algèbre. Ben là, c'est quoi l'affaire? Tu n'as pas de cellulaire dans la classe pendant ce temps-là parce que c'est une distraction. Puis on sait bien que le jeune, son intérêt, ce ne sera pas d'aller sur le cellulaire pour savoir qu'est-ce que veut dire algèbre, puis qui est Balzac, puis qui est Proust, puis qui est Camus, là, ou Michel Tremblay. C'est pas ça qu'il va aller chercher sur son cellulaire, parce que le professeur va lui donner l'information. Ce qu'il va aller chercher sur son cellulaire, c'est des jeux, c'est des messages de ses chums pour savoir ce qu'il fait en fin de semaine. T'as-tu vu tel film? T'as-tu vu telle émission? T'as-tu joué avec tel jeu? C'est ça qui l'intéresse. C'est pour ça que je te dis, c'est une distraction qui va le sortir de l'école. Et on va avoir des résultats en conséquence, puis dans 20 ans, on va s'en plaindre.
Ah, je comprends très bien votre point, mais à quel point l'enseignant qui est en classe n'est pas capable de se faire respecter puis qui est obligé de demander pratiquement une loi au ministre de l'Éducation pour faire interdire les cellulaires à l'école? On dirait que l'enseignant a tellement peur de se faire respecter parce qu'il va se faire dire qu'il fait de l'intimidation, puis qu'il fait ci, puis qu'il est donc sévère et tout ça, que là, maintenant, on dit en haut lieu, changer les choses. Comme ça, nous autres, en tant qu'enseignants, ben, on n'aura pas à faire de la discipline à l'intérieur des classes. C'est un peu comme ça que je perçois le message. Tu sais, moi, je suis enseignant, j'ai la chance d'avoir des adultes dans mes classes, au Collège Radio-Télévision de Québec. Puis, quand je les vois sur leur cellulaire, ben, je leur demande tout simplement, la première fois, de ranger leur cellulaire, parce que là, je suis en train de donner une matière. Deuxième fois, je l'avertis. Troisième fois, c'est mon petit Guillaume... Tu prends tes trucs et tu quittes la classe. Puis, ben, savez-vous quoi? Le cours suivant, ben, il ne touche pas à son cellulaire.
Oui, je comprends. Mais ouais. Tu te souviens dans le temps du tabac, là, c'est le plus jeune, je ne sais pas de quoi je parle, mais il y a eu un temps où on fumait dans un restaurant. Et puis, à un moment donné...
On était-tu au temps d'une paix dans ce temps-là? Y avait-tu le temps d'une paix à télé?
le temps d'une cigarette. Mais tu te souviens-tu, c'est Philippe Couillard qui était ministre de la Santé qui a passé ces lois-là. Et on l'oublie souvent, mais ça a été une de ses grandes réalisations.
Ouais.
Alors, il avait interdit d'abord le tabac dans les restaurants à l'intérieur. Après ça, il avait dit, on va faire une section fumeurs et non-fumeurs. Bien, ça ne donne rien parce que la fumée, ça se promène. Après ça, il avait dit, on va interdire le tabac à l'intérieur, mais sur les terrasses, on va le permettre des fumeurs. Après ça, il a dit, c'est non partout. Alors, pourquoi il a dit c'est non partout? Parce que les restaurateurs n'étaient plus capables de faire respecter les politiques maison. Il y en a qui disaient on fume là, on fume pas là. Un tiers, tu fumais pas. Deux tiers, tu fumais. En tout cas, c'était rendu compliqué. Puis, dépendant des restaurants, c'était variable. Et les restaurateurs étaient excédés. Ils ont dit au gouvernement, faites une loi. Puis nous, on va pouvoir dire, bien, c'est le maudit gouvernement qui a décidé ça, puis ça va être réglé. Ce que le gouvernement a fait. Alors, ça a permis aux restaurateurs d'avoir la paix. Puis les gens ont compris, c'était 100 % non. Alors, les enseignants, j'imagine dans une classe de 25, 30 élèves, où tu en as forcément, sur 25, on n'exagérera pas, là, mais disons que tu en as forcément trois qui font le trouble. OK? Ils sont là pour déranger, ça ne les intéresse pas, ils s'en sacquent, Il écœure le prof, il l'ostine, il bave, il arrive en retard, il sort en plein milieu du cours, il se lève, il parle, il dérange, etc. Alors, il ne faut pas non plus que le professeur passe la moitié de son temps à réprimander ces jeunes-là. Puis si c'est lui qui doit faire la loi dans la classe, bien, c'est beaucoup plus facile à contester, d'autant plus que le professeur dans la classe d'à côté lui permet ça, où il est moins exigeant, où le professeur, à 8 heures le matin, il était favorable, puis le professeur à 10 heures, il ne l'est pas. Fait que là, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est... Il me semble que c'est clair que le ministre de l'Éducation devrait dire ben, les cellulaires à l'école, c'est comme ça que ça marche. Puis c'est oui ou c'est non. Puis si c'est oui, ben, c'est quand que c'est oui. Puis tout le monde va appliquer la loi. Il me semble que ce serait d'aider nos enseignants. On le sait là, qu'on a de la misère. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas qualifiés, les enseignants. On a un taux de diplomation qui est record. Il y en a des finissants. Il y en a des gens compétents dans l'enseignement, sauf qu'ils sont écœurés d'aller dans des classes où c'est le bordel.
Ah, je comprends,
ils sont écœurés de se faire achaler. Puis c'est pour ça qu'on a des problèmes, qu'on va avoir je sais pas quoi, là, comme professeur cette année. Là, mais là, en tout cas, il paraît qu'il manque 5000 professeurs, même plus.
Ouais, on va essayer de compenser avec des gens qui ne sont pas diplômés en enseignement. Là, ce que j'ai vu, c'est que ça prenait un secondaire 5 pour être enseignant là, à certains endroits. Mais ça prend des gens pour enseigner à nos enfants. Mais tu sais, peut-être qu'on parlera de ce sujet-là un autre jour, mais comme je disais vendredi dernier dans le show du midi, Maître Bellemare, à un moment donné, là, les enseignants, il faut qu'ils se regardent dans le miroir puis qu'ils se disent « t'as d'un peu, là. Moi, là, il faut que je me fasse respecter par ma classe. » Puis je veux pas revenir au temps d'une paix, là. Je vais revenir du temps où la poune avait 25 ans, OK? Moi, j'étais à l'école. Ouais. J'étais à l'école quand la poune avait 25 ans. Puis quand le professeur était pas content, là, il me regardait dans le blanc des yeux, puis il se faisait respecter, puis il me disait que si je ne respectais pas les règles de sa classe, parce que c'était lui qui était le maître de sa classe, bien, j'allais aller voir le directeur, et si ça faisait pas, j'allais être suspendu de l'école, et je peux vous dire que être suspendu de l'école, quand j'arrivais à la maison, ma mère me regardait, puis je passais au cash en sacrifice. On dirait que tout ça, ce processus-là, où le professeur t'avertit quelquefois, te regarde dans le blanc des yeux, la rencontre avec le directeur, puis les parents à la maison qui appuient les décisions de l'école, puis qui réprimande l'enfant, on dirait que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ouais, c'est le petit Guillaume, il faut y faire beaucoup, attention.
Tu le disais tantôt, là, moi, dans mon temps, le professeur, il enseignait la géographie, il enseignait l'anglais, il enseignait les mathématiques, puis c'est le bon professeur, c'est celui qui connaissait sa matière, puis qui avait des talents pédagogiques, puis qui était capable de te faire comprendre quelque chose, puis qui te faisait progresser dans ton apprentissage. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Ils doivent vérifier l'habillement, doivent vérifier les cellulaires, doivent vérifier le comportement. Les jeunes sont, je pense, plus primes. Mes droits, mes droits, mes droits. Les parents sont beaucoup plus protecteurs qu'autrefois. Moi, mes enfants, quand ils ont eu des problèmes à l'école, à moins d'avoir une démonstration très claire comme quoi le professeur était dans l'erreur, je n'ai pas favorisé le professeur.
Exactement. C'est la même chose pour moi, mais bon.
Ouais. Non, je comprends, mais aujourd'hui, je pense que c'est différent. Je pense que c'est différent. Les parents sont portés à dire « Ouais, je vais aller le voir, le prof, moi. » Puis, tu sais, moi, je connais quelques enseignants aux primaires, là, puis c'est ce qu'ils me rapportent. C'est ce qu'ils me disent, que c'est des enfants rois. Puis, ils ont de l'argent. Ils ont 12 ans, puis ils ont des cellulaires. Ils ont de l'argent. Ils sont connectés sur les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup plus affirmés. Ils connaissent leurs droits. Ils connaissent les transports en commun. Ils savent comment communiquer. Ils ont déjà vu des shows au centre Vidéotron. ils se courent tard. Alors, tu sais, on n'est pas dans la même époque aussi. Puis je pense que c'est plus difficile pour les professeurs. Je pense que c'est une des raisons qui explique le fait que nos écoles soient beaucoup moins attirantes et attrayantes pour les enseignants. Puis ça, c'est un problème qui ne se réglera pas en deux jours, là.
Maître Bellemare, on parle des dossiers judiciaires maintenant. Vous aimez l'art, c'est une de vos passions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Florent Cousineau?
Bien sûr, je le connais très bien, Florent Cousineau. C'est un sculpteur émérite à Québec. C'est un gars qui a fait beaucoup pour l'art. Il y a d'ailleurs des sculptures un peu partout à Québec. Et puis oui, c'est un gars très respecté dans le domaine de l'art. Oui, puis là, ben, il vient d'avoir un jugement de la Cour d'appel.
Oui.
Parce qu'il a été condamné pour une agression sexuelle. On en avait parlé déjà en ondes.
En 86, il avait été condamné à 30 mois de prison pour une agression sexuelle sur l'ex-copine de son fils. Puis ce serait arrivé en 1986.
C'est ça. Et pour rappeler un petit peu les faits, incidemment, là, la Cour d'appel vient de décider il y a quelques jours, pas qu'il est acquitté, là, ni qu'il n'est pas libéré. Là. Il est encore accusé d'agression sexuelle, mais la Cour d'appel a annulé un jugement de condamnation, ce qui implique que la condamnation est annulée et la peine, parce qu'il avait été condamné à une peine de prison, est annulée aussi, compte tenu que le verdict de culpabilité est cassé. Mais il y aura un nouveau procès, c'est-à-dire qu'il va être jugé à nouveau par un tribunal sur la question à savoir s'il y a une agression sexuelle. Et c'est intéressant, la question que la Cour d'appel a débattue, parce que ça tourne autour du consentement. Et on sait que deux adultes peuvent avoir une relation sexuelle consensuelle, deux adultes consentants. Si un des deux qui n'est pas consentant, bien là, ça devient une agression sexuelle. Donc, la ligne est mince, c'est tout tourne autour du consentement. Et très souvent, dans l'actualité, on voit des histoires d'agression sexuelle où on peut parler de Catherine Fournier, là, la mairesse de Longueuil, là, qui, ouais. Qui a fait condamner Harold Lebel, des histoires, ils sont couchés ensemble, puis... Faut pas, je veux pas de sexe, puis finalement, il a taponne, puis il est condamné. Bon, alors, tu sais, des histoires où on se dit, ben là, c'est-tu consenti, c'est-tu pas consenti? Bien souvent, c'est bien sûr le gars par rapport à la fille. Le gars qui dit, était d'accord, puis la fille qui dit, je l'étais pas. Et des fois, c'est un consentement qui est là au début, mais qui l'est plus en cours de route. Puis là, le gars doit comprendre que si la fille dit non à un moment donné, pendant la relation sexuelle qui peut durer un certain temps, non, ça veut dire non, donc on arrête même si on est bien parti. Alors, c'est assez compliqué et ça touche bien sûr des processus sexuels des hommes, des femmes. C'est pas facile. C'est difficile à déterminer s'il y a eu un consentement ou pas. Puis dans le cas de Florent Cousineau, si on se souvient bien, c'était la copine de son fils. Parce que Florent Cousineau a de nombreuses familles, je pense qu'il y a 6 ou 7 enfants. Alors, son fils avait une copine. La copine s'était présentée chez Florent. Le petit gars n'était pas là. Et Florent, ou je ne sais pas trop si c'est elle, en tout cas, il y a eu un massage. Et massage corporel. Et pendant le massage, ben là, il y a eu une relation sexuelle. Et donc, une pénétration, semble-t-il. Et madame, 30 ans après les faits, décide de porter plainte à la police en disant « j'étais pas d'accord, puis j'ai été agressé sexuellement ». Alors, la police envoie ça au DPCP, accusation d'agression sexuelle. Alors, Florent Cousineau a toujours dit qu'il y avait eu consentement. Et madame dit qu'il n'y a pas eu consentement, mais il y a eu consentement au moins pour un massage. Là. Il y a eu un bout quand même qui a été consenti. Fait que c'est pas clair. Et la Cour d'appel dit, à partir du moment où le consentement est contesté, à partir du moment où le consentement est sur la table et que c'est la question centrale dans une question d'agression sexuelle, le tribunal doit se poser la question à savoir s'il y a une croyance sincère. C'est-à-dire, est-ce que l'homme croit sincèrement et a de bonnes raisons de croire de bonne foi qu'il y a consentement. Est-ce que tout est en place pour indiquer un consentement? Parce qu'un consentement, c'est pas juste de dire oui ou c'est pas juste de dire non. Des fois, ça peut être juste une question de fait, d'attitude, de comportement. Et la Cour d'appel dit, dans l'affaire Cousineau, compte tenu que Florent Cousineau disait qu'il y avait eu consentement puis qu'il a toujours dit la même affaire, même aux policiers, et qui était convaincu, le juge devait regarder ça avant de rendre sa décision. Alors moi, je pense que, on verra bien, là, parce que le DPCP peut décider ce matin qu'il n'y aura pas d'accusation, puis abandonner les accusations dans ce contexte-là. Comme il peut y avoir un nouveau procès pour Florent Cousineau, mais je pense qu'avec le jugement de la Cour d'appel qui remet ça sur la table, je pense qu'il y a de meilleures chances d'être acquitté qu'il y en avait avant le premier procès.
Okay. C'est particulier parce que dans ce type d'histoire-là, la dame qui se dit victime va se sentir victime même si on annule le procès, même si on dit bon ben ça avait de l'air consenti, alors qu'elle, de son côté, a vraiment l'impression qu'elle n'avait pas consenti. Puis quand il y a des années comme ça qui séparent les événements, Maître Bellemare, des fois, j'avais parlé de ça avec Christian Page, tu sais, la mémoire, là. Des fois, dans notre mémoire, on a tendance à se rappeler des éléments, puis il manque des morceaux du casse-tête, puis on rajoute des morceaux du casse-tête pour le compléter. Ça doit être extrêmement souffrant, tu sais, année après année, de te souvenir de ça. Puis des fois, tu améliores tes souvenirs ou tu les empires, là. Mais quand on raconte une histoire d'un événement qui nous est arrivé quand on était jeune, quand on la raconte plusieurs fois, on a tendance à l'améliorer constamment, cette histoire-là, à la bonifier constamment. Ça ne doit pas être évident pour les avocats, pour les juges, de recevoir les témoignages de personnes après plusieurs années, parce que c'est un phénomène qui est connu de tous, là. Tu sais, quand ça fait 50 ans que c'est arrivé, oui, tu te souviens de certaines choses, mais des éléments bien, bien précis, là, tu sais, le casse-tête au complet, c'est un peu plus rare, là.
Oui, oui, puis tu as raison, puis c'est toujours un peu, ça fait toujours un peu sourciller quand c'est des histoires de 30 ans. Je dis pas que c'est pas vrai, et puis évidemment, le code criminel ne prévoit aucun délai pour porter des accusations, puis on sait qu'il y a des gens qui ont été condamnés pour des agressions sexuelles, des agressions commises dans les années 40, des années 50, on en a vu il y a pas longtemps, les années 50, on sait qu'il y a des recours actuellement, même au civil, parce qu'il n'y a plus de délai pour poursuivre, il y a des recours collectifs, qui reviennent jusqu'en 1940 dans les contre certains diocèses, notamment le diocèse de Québec. Alors ça, c'est important. La question de la crédibilité peut être au cœur aussi d'un procès. Pourquoi vous avez attendu 30 ans, etc. Il y a d'autres questions qui se posent aussi, à savoir, est-ce qu'il y a une relation sexuelle, par exemple, en ce sens que le massage était autorisé, mais la pénétration ne l'était pas? Ça peut être le cas aussi. Il peut y avoir une fille peut consentir à certains gestes, certains comportements, certains échanges de nature sexuelle sans nécessairement consentir à toutes les étapes d'une relation sexuelle. Exact. Elle peut accepter d'être embrassée sans nécessairement accepter d'être touchée. Elle peut accepter d'être touchée d'une certaine façon. Il peut y avoir des protocoles, il peut y avoir des limites à ça. Et moi, je pense que ça va être intéressant de suivre tout ça, mais les directives de la Cour d'appel sont quand même, à mon avis, extrêmement pertinentes. Et ça va faire jurisprudence parce que dorénavant, dans des cas de consentement comme ça, le juge va devoir s'attarder à la notion de croyance sincère. Ça veut dire que le gars croit fermement et de façon sincère, de bonne foi, à un état de fait qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est convaincu, compte tenu du comportement de la femme, compte tenu de son attitude, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de comment elle réagit à tel ou tel geste, il est convaincu qu'il y a consentement. Et ça peut faire en sorte qu'il n'y a pas de culpabilité, compte tenu du fait qu'il a le consentement au moment où il procède. Alors, c'est intéressant. Moi, je trouve qu'en droit, en tout cas, c'est une belle question. Comment le prochain juge va gérer ça, on verra bien. Mais je pense que pour M. Cousineau, c'est une... Puis là, je fais abstraction du fait que je le connais personnellement, là, mais je pense qu'en droit, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon jugement, et j'ai l'impression que pour M. Cousineau, il y a plus d'espoir qu'il y en avait, parce que si le juge exploite ça, puis qu'il peut convaincre le juge qu'il était convaincu sincèrement qu'il y avait consentement, puis qu'il y a des éléments de fait qui vont dans le sens de ce qu'il prétendait à ce moment-là, bien, il y aura un acquittement à ce moment-là, on verra bien.
Autre dossier, on parle du dossier de Pascal Ferrier, qui est une Française d'origine qui est venue s'établir au Québec. C'est une femme qui semble avoir un désir de militantisme. Elle n'aimait pas du tout Donald Trump et a eu la mauvaise idée de lui envoyer une lettre qui était empoisonnée avec une substance qui aurait pu effectivement nuire au président des États-Unis. Cette lettre-là a été interceptée. On a réussi à découvrir que cette lettre-là venait de Mme Pascal Ferrier. Elle s'est pointée aux douanes, elle s'est fait arrêter, elle était en prison. Elle a dit effectivement, oui, c'est moi qui a envoyé cette lettre-là. Et là, elle se ramasse avec une peine de presque 22 ans de prison aux États-Unis. Une lourde sentence. Je ne sais pas comment ça aurait été d'année au Québec. Là. Ça aurait peut-être été même 6 mois là, de pénitence à cette dame-là si elle avait fait ça à François Legault. Mais pour ce qui est du président des États-Unis, c'est 22 ans de prison. Donc, elle reverra probablement jamais le jour. Là, elle a 56 ans présentement, Mme Pascale Ferrier.
Oui, c'est une dame qui est née en France, qui vit dans la région de Montréal. Et c'est là, elle est âgée de 56 ans, et on dit d'elle qu'elle est une femme supérieurement intelligente, ingénieure, bardée de diplômes. Même pendant sa période d'emprisonnement aux États-Unis, elle a suivi des cours, elle a eu d'excellents résultats. Il paraît que c'est une bolle en bon québécois. Et c'est en 2020 qu'elle a transmis, bon, il y avait eu aussi des menaces, etc. Puis on l'a intercepté aux douanes avec des munitions, un faux permis de conduire pour le Texas. En tout cas, elle était assez décidée. Puis même quand elle a été entendue par le juge, elle a dit « Je ne suis pas une terroriste. Les terroristes répandent largement la terreur et la mort en ciblant des personnes innocentes. J'ai vu mes actions comme un acte d'activisme. » Alors, elle, ce qu'elle dit, c'est « J'ai posé un geste de nature politique, mais je n'ai pas fait mal à personne. » Elle a raison. Il n'y a pas eu de dommages en termes de morts, de blessés. Il n'y a aucune conséquence, même matérielle, de cet acte-là. Mais on est aux États-Unis, puis aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Donc, 9 chefs d'accusation, plaide coupable partout, 2 ans et quelques mois pour chaque chef d'accusation, ce qui donne à peu près 22 ans, près de 22 ans de prison. Mais je veux simplement te ramener au souvenir de certains épisodes au Québec, parce que, tu vois, là, on dit souvent que notre justice au Québec, au Canada, est trop clémente, et j'en suis. Je pense qu'on devrait être plus sévère de façon générale. Aux États-Unis, ben là, c'est un peu l'inverse. Écoute, 22 ans, je comprends qu'il y a eu un geste malveillant, puis je comprends que c'est criminel, puis qu'elle n'a pas de remords. Au contraire, elle dit que c'est un geste d'activisme, donc elle ne comprend pas la gravité du geste qu'elle a posé. Mais tu te souviens du caporal Lortie?
Denis Lortie, qui a maintenant 64 ans aujourd'hui, qui est libre.
Ouais. Lortie, là, Denis Lortie, militaire en 84, quitte Valcartier avec des armes, avec l'objectif de détruire le gouvernement de René Lévesque, croyant que le gouvernement de René Lévesque est en chambre en session. Il ne l'est pas. Alors, mon Lortie se présente à l'Assemblée nationale avec bardé d'armes et de munitions. Il fait, en 84, 3 morts et 13 blessés. Puis là, 13 blessés, je trouve que le chiffre est faible, parce que moi, j'en ai eu au bureau des victimes de criminels qui ont été victimes de Denis Lortie, là. Puis il y a les blessés physiques, mais il y a aussi des blessés psychologiques. Et il y en a plus que 13, je peux te le confirmer. Alors, il a pogné 25 ans. Mme Ferrier, elle, envoie une lettre avec du poison, puis elle prend 22, là. OK? Alors, Lortie, 3 morts, 13 blessés, 25 ans. Combien de temps il a fait, d'après toi?
8 ans, je pense. 6 ans ou 8 ans, je ne me rappelle pas.
Ben, en 93, on le libère. On dit que c'est plus un danger pour la société. Puis il est sorti en 95. Il a fait 11 ans de pénitencier. La moitié de Mme Ferrier, qui envoyait une lettre avec du poison artisanal, du poison maison, qu'elle avait fabriqué chez elle. Lortie, 25 ans, il en a fait 11. Alors, il a fait la moitié de la peine de Mme Ferrier. Puis je peux vous dire que Mme Ferrier va faire ses 22 ans. On est dans les États-Unis d'Amérique. Puis là-bas, la loi, c'est important. Puisque les juges décident, c'est comme ça que ça marche. Alors qu'ici, bien évidemment, le juge va donner 25 ans. Mais M. Lortie a fait 11 ans, même pas la moitié, ce qui est une farce totale, à mon avis. Alors, voilà, et c'est comme ça. Puis je vais te ramener un petit peu plus récemment pour montrer jusqu'à quel point notre justice est clémente et drôlement clémente dans bien des cas. M. Legault, notre premier ministre, ainsi que le premier ministre Trudeau, ont fait l'objet de menaces. En 2021, Martin Toulouse fait des menaces, 60 jours de prison, 750$ d'amende, des vidéos, des lettres aux réseaux sociaux. On va finir la job. Il y en a même un qui a pogné 21 jours en décembre 2020 et en juin 2021, un récidiviste, 21 jours. Et lui, il avait dit, je vais finir la job de Lortie. Et ça s'est passé, évidemment, dans une période trouble au Québec, dans la période de pandémie, mais il reste quand même que sur les réseaux sociaux, ces gars-là disaient, en gros, ils ont tué des malades dans les hôpitaux, pourquoi eux ne mourraient pas? Puis, écoute, c'était on prend les armes, puis on s'en va tuer le premier ministre, Trudeau et Legault. Puis là, on est dans les jours, là, puis dans les centaines de piastres d'amende, alors qu'aux États-Unis, c'est 22 ans. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose. C'est difficile de comparer deux cas pareil, mais il demeure que malgré les lois puis malgré le code criminel, les peines pour les gens qui menacent de mort avec vidéo à l'appui, il y en a même un qui avait une arme en dessous de son lit. Le juge blâme, puis au bout de la ligne, il arrive à quelques dizaines de jours de prison. C'est un peu surprenant, mais moi, je serais plus porté à être entre les deux. C'est peut-être entre 22 ans puis 60 jours, mais tu sais que des menaces de mort contre un premier ministre sérieuses, documentées, avec vidéo, réseaux sociaux, appel à tous de prendre les armes puis d'aller faire le ménage au Parlement. Je ne peux pas croire qu'on s'en tire en bas de 5 ans. Moi, ça me dépasse.
Ah, là-dessus, je suis entièrement d'accord.
C'est l'état de la jurisprudence actuellement.
Puis la justice, parfois, doit montrer l'exemple. Tu ne peux pas t'attaquer à un juge, tu ne peux pas t'attaquer à un politicien. À un moment donné, il faut le montrer à la population. Si tu fais ça, tu dois en payer le prix, puis ça doit être une sentence qui est sévère. Tu ne peux pas t'attaquer au premier ministre. Puis on l'avait vu, hein, on avait vu qu'il se passait quelque chose là, pour les gars et les filles qui sont un peu plus alertes là, sur les images quand il y a des fameux scrums avec le premier ministre. Bien souvent, on ne voit pas les bodyguards qui sont autour du premier ministre. Et là, curieusement, pendant quelques semaines en ligne, on voyait clairement les bodyguards qui étaient dans le cadrage là, du premier ministre, quand le premier ministre s'adressait aux journalistes, puis on voyait que les bodyguards regardaient l'écran. Fait qu'on tentait de montrer qu'on était là, qu'on était présent autour, puis de dissuader quiconque voudrait s'en prendre au premier ministre. Et ça, dans l'histoire du Québec, là, moi, j'étais assez alerte là-dessus, là, sur la sécurité autour des ministres puis du premier ministre. Là, j'aime ça, je trouve ça intéressant à regarder. C'était la première fois que je voyais une démonstration comme ça, parce que normalement, ils sont assez discrets, là, les gens qui sont autour du premier ministre. Là.
Oui, c'est exactement. Mais tu sais, c'est moi, je me souviens, quand j'étais ministre de la Justice, j'avais une voiture banalisée pendant à peu près 8 mois parce que j'avais présidé, évidemment, comme ministre, j'étais responsable du système judiciaire, puis on avait des méga procès contre les gangs criminalisés, puis etc. Fait que j'avais passé, puis Serge Ménard, qui était ministre de la Justice avant moi, avait eu un peu le même statut. Donc, des voitures banalisées pour éviter d'attirer l'attention sur la limousine qui pouvait, si quelqu'un avait de mauvaises intentions, s'attaquer à la limousine plutôt que de s'attaquer à une vieille Econoline. Là.
Ouais.
Alors, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Et puis, je suis convaincu qu'aujourd'hui, ça existe encore, cette procédure-là, pour éliminer diminuer les risques, en tout cas, auprès d'un élu. Mais je suis toujours fasciné par le fait que on vit au Québec dans une espèce d'illusion de sécurité. Malgré 2017, avec Alexandre Bissonnette, là, qui a fait, comme tu le sais, 6 morts et 6 tentatives de meurtre, au moins à la mosquée de Québec, on sait qu'aujourd'hui, il y a des armes. À Montréal, ça pète à tous les jours. Il y a beaucoup d'armes illégales qui circulent. C'est pas parce qu'on est à Québec qu'on est à l'abri de ça. Il y a des gangs partout. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour 50 piastres. Il y a beaucoup de consommation de drogue. Il y a des réseaux sociaux également qui peuvent, en quelques heures, s'enflammer. Une mauvaise décision gouvernementale. Si on retombe en pandémie, éventuellement, on verra bien ce que ça donnera. Mais tu sais, les gens sont écœurés. Les gens sont, bon, à tort ou à raison, mèche courte, hein? Les gens sont, beaucoup de gens sont excédés, sont prêts, réagissent négativement, agressivement. Et, Denis Lortie, c'est en 84, la fusillade à l'Assemblée nationale. On n'est jamais à l'abri de ça, ça peut arriver n'importe quand. Mais je trouve encore aujourd'hui qu'on a une attitude beaucoup trop retenue par rapport aux menaces puis aux agressions auprès des élus. Puis si on veut avoir du monde au Parlement qui dirige à un moment donné puis qui fait des lois puis qui administre les affaires publiques, déjà qu'on a des problèmes, puis on le sait, il y a beaucoup de gens de talent qui ne veulent plus aller en politique parce que les médias, etc., ils ont de la misère, puis les politiciens sont tellement mal perçus. Puis je dis pas qu'ils ont toujours raison, bien au contraire, je pense que les gens ont raison d'être sceptiques. Les politiciens font beaucoup ont des attitudes souvent qui sont à blâmer. Je suis le premier à les critiquer. Mais il reste que dans des cas de violence ou de menace de mort, on est beaucoup trop complaisant. En tout cas, éventuellement, on va comprendre pourquoi, parce que c'est certain qu'il va se produire des choses éventuellement. On va continuer d'avoir des problèmes avec ça. Puis c'est pas en donnant des peines de 60 jours à des gars qui dorment avec des armes qu'on les appelle à tous en disant on va finir la job de l'ortie avec 60 jours de prison. Qu'on va régler le problème. Il va falloir être beaucoup plus affirmé si on veut protéger surtout les premiers ministres. On sait que ce n'était pas des menaces qui s'adressaient aux gardiens de sécurité en avant du Parlement. Là. C'était les premiers ministres Trudeau et Legault qui étaient visés et ça s'est passé il y a 2 ans. Alors, on est loin du compte, à mon avis.
Oui, puis souvenez-vous, Pauline Marois, lorsqu'elle a été élue première ministre du Québec, l'individu qui s'était présenté par l'arrière de la bâtisse sans qu'il soit intercepté, puis finalement, il a réussi à tuer des gens. Est-ce qu'il avait tué des gens de mémoire? Il avait-tu réussi à tuer quelqu'un? Je pense oui, une personne.
Oui, il a tué une ou deux personnes.
C'est un mort,
et d'ailleurs,
un
blessé, oui. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un jugement de la Cour supérieure qui est sorti il y a un an ou deux où la Sûreté du Québec, le gouvernement du Québec a été condamné pour son laxisme face à Richard Bain qui s'était pointé au Métropolis à Montréal avec un fusil, puis il a blessé, puis il a semé toute une commotion. Et puis, c'est ce que je te dis, c'est on s'en sacre, là, tu sais, il n'y a comme pas de procédure. On a l'impression qu'ils ne sont pas sécurisés. Puis moi, je vois sur les nouvelles le soir, là, Legault qui se promène. Puis bon, il y a certainement un garde du corps ou deux autour. Mais quelqu'un qui veut vraiment, là, qui est décidé, puis qui a un bon fusil, là, puis qui décide, lui, qui s'en va à tel point de presse pour telle annonce, il va être capable de tirer puis de tuer du monde. C'est pas assez sécurisé. Contrairement aux États-Unis, qui, eux, ont des procédures beaucoup plus strict au niveau de la sécurité et tu t'approches pas le premier ministre. On va investiguer les lieux avant. On s'assure d'avoir une garde rapprochée qui est très, très, très solide. Au Québec, là, on est loin du compte. On n'apprend pas de nos erreurs.
C'est non, malheureux. Moi, je me souviens des images. Ça m'avait marqué parce que avec les chaînes en continu de nouvelles, on voyait régulièrement ces images-là. Puis on voyait Mme Marois qui était à son pupitre puis un bodyguard qui tirait chacun de son côté, chacun de son bord. Puis elle était comme séparée. Il essayait comme de la séparer en deux jusqu'à temps qu'ils s'entendent d'un côté à y aller d'un bord. Puis quand ils allaient du bord où ils ont décidé les deux, ils l'amenaient directement vers le tireur. T'sais, quelle erreur, là. Ça a été une erreur monumentale de la part des gars de la Sûreté du Québec. Mais je pense que depuis ce temps-là, il y a des plans qui sont un peu plus précis là, quant à la fuite, si jamais il y a une fusillade. Cela dit,
ouais,
est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous avez déjà contesté un ticket de vitesse?
Non, j'ai pas contesté, mais j'ai vu des gens qui contestaient.
OK.
J'ai vu des gens qui contestaient, puis tu sais, on est porté à penser que c'est facile de contester un ticket de vitesse, mais avec la technologie aujourd'hui, les radars, les photoradars, c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai vu des gens se faire virer comme des crêpes par les juges en contestant des tickets. Il y a comme une croyance populaire à l'effet que tu t'en vas en cours et tu dis non, je roulais à 70 et non pas à 150. Que le juge va te croire sur parole. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et non, j'en ai jamais personnellement contesté parce que au-delà de la question juridique et des chances de gagner ou pas, il y a une question de temps aussi. As-tu du temps, toi, pour aller à la Cour du Québec ou à la Cour municipale pour dire attendre je sais pas combien d'heures, témoigner, te faire contre-interroger devant un public intéressés. Garde, c'est aussi la perte de temps que ça représente.
Ouais.
On comprend qu'on a, c'est étiquette, c'est 50-100 piastres. Là,
c'est ça. Mais mon taux horaire n'est pas nécessairement le même qu'un avocat de renom. Là. Donc, j'irais selon la facture qui m'est demandée. Mais encore là, si on perd, on doit payer des frais supplémentaires de traitement administratif puis, pour avoir dérangé le juge pour rien. Donc, des fois, c'est un...
Oui, qui va bien au-delà de l'amende dans bien des cas, d'ailleurs.
Oui, exact. Mais j'en ai pogné un sur Dufresne-Montmorency, là où ils ont mis le nouveau photoradar, là, qui est le photoradar le plus payant au Québec en raison du fait qu'on a l'impression d'être sur une autoroute. Puis finalement, le gouvernement du Québec a dit non, c'est pas une autoroute, c'est un boulevard. Puis là, il y a une lumière à cet endroit-là. Et des gens qui ont été tués, fait qu'on on va mettre un photoradar. J'en ai pogné un là, puis c'était pas mon véhicule que j'avais. J'avais le véhicule d'une autre personne, puis c'est l'autre personne qui a eu la contravention. Puis là, moi, je savais que c'était moi, fait que vous comprenez que j'y ai remboursé, mais c'est assez particulier ça, qu'un photoradar puis qu'un gouvernement donne un ticket à un véhicule et non à, à la personne qui était au volant à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, c'est je sais de quoi je parle parce que j'en ai pogné un, moi aussi. Ça fait à la même place. C'est 70 km/h, la limite. Hein?
Oui.
C'est pas 90, c'est 70 km/h, là où il est arrivé l'accident du malade mental là, qui a tué 4 personnes. Là. En tout cas, ceci étant dit, c'est 70 km. Alors, c'est très difficile de dépasser ça quand la lumière est verte. Et puis, moi, j'étais à 90, ça m'a coûté 140 avec les frais. Alors, soyez avisés sur Dufresne-Montmorency, en approchant là, à peu près à mi-chemin entre Place Douville et l'île d'Orléans. Là, il y a une machine qui est très payante, semble-t-il. Mais contester le ticket, ils ont le droit d'imposer des amendes. C'est le code de la sécurité routière qui le permet. Tout ça est parfaitement légal. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as une photo, tu vois ton char avec le numéro de plaque sur la photo, il t'envoie ça avec le procès-verbal de la police. Il n'y a pas vraiment de... À moins que ce ne soit pas toi, à moins que tu ne saches pas, un véhicule volé peut-être. Tu sais, la marge de manœuvre n'est pas tellement bonne. À vrai dire, il n'y en a presque pas. On est poigné pour payer ça. Puis le bémol, c'est qu'il n'y a pas de point de mérite. Hein, c'est important. Hein, parce que moi, quand je vois ça, ce qui m'agace, c'est le point de mérite. Le montant à payer, c'est choquant. Mais on le paye, puis c'est réglé. Mais du côté des points de mérite, c'est une autre affaire parce que tu sais qu'éventuellement, c'est une suspension de permis qui t'attend si ça arrive trop souvent. Mais c'est les photos radar à main. Là, tu sais, le policier là, qui est à Saint-Jean-Port-Joli, dans la courbe, là, puis qui t'attend avec son séchoir à cheveux. Là.
Oui, il est souvent là, d'ailleurs.
Non, mais ça... mais ça, c'est un peu plus facile à contester.
Ah oui?
Surtout si tu te fais dépasser en même temps, parce qu'on sait que le radar va capter plus facilement les gros objets. Fait que si tu t'en viens en moto, toi qui aimes la moto, puis qu'en même temps, tu dépasses ou tu te fais dépasser par un F-150, le juge pourrait dire que c'est le F-150 qui roulait trop vite et non pas la moto, parce que le radar est porté à poigner le plus gros objet. Mais il y a de la jurisprudence, il y a des jugements de cour qui ont été rendus dans les années 90, qui sont encore en vigueur aujourd'hui, et qui imposent que le policier qui utilise ou l'officier qui utilise le séchoir à cheveux soit qualifié, que l'appareil soit bien calibré, que l'appareil ait été testé avant et après l'interception du véhicule. Tout ça, mais écoute, les policiers sont pas fous. Ils ont eu 40 ans pour s'ajuster. Et aujourd'hui, ils savent quoi dire, puis ils savent quoi faire quand ils témoignent en cour dans des cas comme ça. Puis si tu arrives en cour, puis tu dis non, je roulais à 50, puis le photoradar monte 119 ou 120 ou 125, il y a peu de chances que tu gagnes ta cause dans des cas de vitesse. Alors, il suffit pas de le dire pour être cru à ce qu'on dit. Il y a tout un appareil, puis si la police est capable de prouver que l'appareil est fonctionnel et que l'opérateur est tout aussi fonctionnel, c'est à peu près impossible d'être acquitté. Puis à ce moment-là, vous allez payer Non pas 80 ou 90 piastres d'amende, vous allez payer 300, 400, 500 piastres avec tous les frais de cours que ça peut imposer, là, que ça peut impliquer.
Ouais. Moi, je pense que la dernière fois, j'ai contesté un billet de contravention, je devais être autour de 16-17 ans. Puis j'avais eu la chance que le policier ne se soit pas présenté à la séance, ce qui fait en sorte qu'il y avait juste mon témoignage là, sur place, puis il y avait le rapport du policier, mais il semblait incomplet, puis j'avais gagné. Mais le policier ne s'était pas présenté. Mais,
c'est policiers... une question de radar?
Non, c'est une question de stop mal fait.
Mais, c'est pas pareil, là.
Oui, c'est ça.
Là, t'as pas de machine, là, c'est juste visuel.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais dit que j'avais fait un stop de 3 secondes, mais le policier n'était pas d'accord avec les 3 secondes.
OK, je comprends. Parce que là, c'est une question de crédibilité, Yann. Ouais, c'est ça. Si tu dis, moi, j'ai arrêté, le policier, lui, il se souvient pas tout le temps, il fait un rapport après l'événement, mais lui, il en a vu 40 dans son avant-midi, là. Alors, tu sais, toi, t'es qui de parmi les 40? Il sait pas tout le temps, puis il est pas toujours précis dans ce qu'il dit. Toi, ça t'est arrivé juste une fois. Si t'es crédible, si ce que tu dis est cohérent, si t'as une belle tenue, si tu réponds de façon ouverte, si t'es précis, et souvent, on dit amener en cours une espèce de plan ou une photo de l'endroit où c'est arrivé, parce que le juge ne te déplacera pas pour aller voir où c'est arrivé puis de mimer l'événement, là. Mais tu arrives avec un plan, tu arrives avec des croix, des X pour dire « moi, j'étais là, le policier était là ». Puis si tu es accompagné, ben, tu amènes ton témoin, la personne qui était là puis qui a vu l'événement. Et à ce moment-là, il suffit de soulever un doute raisonnable. Si tu soulèves un doute raisonnable que le juge pense que c'est possible que ça ne soit pas arrivé, il va t'acquitter. C'est la même règle de preuve en droit criminel. Pour l'étiquette, pour les meurtres, les agressions sexuelles, c'est la même chose. Il faut que la poursuite établisse, hors de tout doute raisonnable, que l'événement s'est produit. Alors, dans des cas où c'est plus subjectif comme ça, j'ai ralenti, j'ai pas ralenti, le stop, j'ai pas fait le stop, je suis passé sur la rouge, sur la jaune, toutes ces choses-là, évidemment. Là, c'est une question de fait, puis là, les chances d'obtenir gain de cause sont meilleures, bien sûr.
Maître Bellemare, c'est déjà tout. J'en prendrai plus, mais vous chargez trop cher. Fait que je vais vous souhaiter de passer une belle soirée.
Ouais, pour payer l'étiquette après tout.
C'est ça. Maître Marc Bellemare pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, bellemareavocat.ca.
Parfait, bonne semaine. Merci.
Bonne semaine, merci.
Marceau, le soir.
Vous avez de l'expérience significative dans votre domaine, mais il vous manque le diplôme collégial nécessaire à l'avancement? Vous avez de l'expérience en informatique, en administration, en supervision ou en gestion de la production? Faites-la reconnaître et obtenez le diplôme qui vous permettra d'atteindre vos objectifs professionnels grâce à la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Limoilou. Une formule efficace, personnalisée et à distance qui vous permet de travailler à temps plein. Faites votre rentrée sans retourner sur les bancs d'école. cégeplimoilou.ca.
Auto Hi-Fi. Innovation et perfection haute performance.
Auto Hi-Fi. L'expérience ultime en sonorisation sur mesure, mais aussi en intégration audio-vidéo dans un véhicule ou VR motorisé. Le divertissement idéal longue distance pour les enfants sur écran.
Auto Hi-Fi. Des produits reconnus mondialement.
Auto Hi-Fi. Boutique, atelier d'installation et service mobile.
Auto Hi-Fi. Rue Bouvier. L'excellence intégrale à Québec.
L'espace client d'Hydro-Québec, c'est plus qu'un espace pour les factures à payer. C'est aussi l'espace où trouver des conseils personnalisés pour mieux consommer et économiser. On peut dire que ça rime avec efficacité. Visitez votre espace client au hydroquebec.com ou à partir de l'appli mobile.
Marc Dupré a testé pour nous le GMC Sierra 1500 Graphite et son haillon multipro à 6 fonctions.
6 fonctions, c'est comme un couteau suisse, sauf que c'est pas un couteau puis c'est pas suisse. Mais c'est comme un couteau suisse.
Louez le GMC Sierra 1500 Graphite 2023 pour l'équivalent de 144 $ par semaine pendant 24 mois chez votre concessionnaire GMC. Valeur au détail de 63 169 $, versement initial de 2 500 $, 52 paiements de 289 $ et 20 sous du kilomètre après 32 000 km.
Bonjour, chers parents. Ici Jocelyn Thibault, DG de Hockey Québec et ancien gardien de but de la LNH. La saison de hockey approche et quoi de mieux l'hiver que de voir nos enfants pratiquer un sport et s'amuser avec leurs amis. Votre enfant est âgé de 5 à 21 ans et s'intéresse au hockey? Partout au Québec, rendez-vous sur notre site web au inscription.hockey. Aucune expérience n'est requise. Tous sont les bienvenus à joindre nos équipes pour apprendre à jouer et à se dépasser. Faites vite! Les inscriptions se terminent bientôt.
À Boulevard 102.1, vous êtes chez vous.
On est-tu bien à la maison, hein?
Boulevard BLVD.
102-1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Ça a été un plaisir cette dernière heure en compagnie de Maître Marc Bellemare. Pour ce qui est de la météo ce soir, on nous annonce un ciel dégagé. Donc c'est la bonne nouvelle, minimum de 11 degrés. Pour ce qui est de... minimum de 9, pardon. Pour ce qui est de demain mardi, encore là, ce sera une belle journée comme on a connu aujourd'hui, maximum de 22 degrés, minimum de 7 en soirée, c'est ce qu'on nous mentionne. Donc demain, pas de pluie de prévu, matin, midi et soir. Mercredi, ensoleillé, maximum de 24. Coudon, ça va bien, on continue. Jeudi, 24 août, ensoleillé avec un maximum de 23. Et vendredi, ben là, on parle d'averse avec un maximum de 21. Et tiens, on va se permettre d'aller plus loin pour ce qui est du week-end. Plein soleil samedi, plein soleil dimanche. Donc, peut-être enfin un début d'été qui se dresse à l'horizon. Ben, ça tombe bien, presque fini. Hey, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Max s'en vient dans les prochaines minutes. Puis nous, ben, on se dit demain à 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
Marceau le soir. Le soir.
Ici Sophie Thibault. Retrouvez-nous dès 17h au TVA Nouvelles pour être bien informé et savoir ce qui est arrivé dans la journée.
Et dès 17h30, suivez-moi, Julie Couture, pour tout savoir ce qui se passe dans la grande région de Québec.
T'es un giga fan des Alouettes et t'as des colocs en giga. Ça te prend le forfait le plus sportif, l'Internet giga illimité de Vidéotron. Pour seulement 75$ par mois, plus besoin de partager le terrain avec tes colocs. Jouer, naviguer, écouter des contenus tous en même temps sans temps mort. Passez dès maintenant à l'Internet le plus hot. L'Internet giga de Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent.
Vous désirez devenir entrepreneur certifié, obtenir votre carte santé et sécurité de l'ASP Construction ou renforcer vos connaissances en gestion d'entreprise de construction? L'endroit pour vous, c'est l'ACQ Québec. N'attendez plus. Faites confiance à la meilleure équipe et bénéficiez de cours reconnus et exemptés des examens de qualification de la RBQ. L'ACQ, le partenaire de choix de l'industrie de la construction. Pour information, visitez acq.org.
Vous en avez jamais assez de vos animateurs préférés. Réécoutez les meilleurs segments des shows sur le blvd.fm et sur l'application.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Comme pour ces moments où vous faites la navette sans arrêt pour vos enfants, au point où vous êtes plus étourdi que dans un manège. Pour vous aider à survivre au train-train quotidien, nos véhicules vous offrent tout l'espace et la durabilité dont votre famille a besoin. Quand la vie va vite, c'est l'heure Toyota. Découvrez la famille RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Les fêtes gourmandes de Neuville, la recette parfaite pour un week-end rempli de saveurs et de plaisir. Du 24 au 27 août, voyez en spectacle Grégory Charles, Sarah Dufour, Sal Barbe, Brittany Kennell et Matt Lang. Plus de 40 exposants, dégustations de produits du terroir, cuisine de rue, microbrasserie et activités familiales sur place. Ne manquez pas l'événement gourmand incontournable de l'été. Les fêtes gourmandes de Neuville, une présentation de la ville de Neuville et Desjardins. Billets en vente au fgdn.ca.
C'est la plus grande liquidation de l'année chez Sale. Obtenez jusqu'à 70 % de rabais sur une vaste sélection de produits. Vous trouverez les meilleurs rabais sur des milliers d'articles de plein air. Soyez équipés été comme hiver avec Sale. Sale, votre destination plein air 100 % québécoise.
Check it out! Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là. On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Ben, parce que vous êtes les meilleurs au monde.
J'adore 102!
Il
n'y
a rien de mieux que 102-1 pour son équipe.
102-1.
Parce que vous êtes la meilleure radio au monde!
Boulevard 102-1. Boulevard 102-1. Bienvenue chez vous. C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Ça, c'est du rock.
Excellent lundi.
21 août à tous. Lundi soir de lutte à Québec. Monday Night Raw, c'est ce soir que ça se passe au Centre Vidéotron. Si vous êtes en route vers le Centre Vidéotron, ben je vais vous souhaiter une excellente soirée et on va se crinquer un peu avec de la grosse musique. Le volume au max, ça commence maintenant et ça dure jusqu'aux environs de 20 heures. Du bon stop. C'est le cas chaque soir. C'est le cas, en fait, toute la journée à Boulevard 102.1. La meilleure musique en ville, ben, c'est ici que ça se trouve. Et on passe ça avec une grosse séquence de rock. Muse sera là avec Uprising. Nirvana s'amène aussi les Smashing Pumpkins. Ghost. Et tout de suite, quoi de mieux pour commencer ce lundi soir? J'espère d'ailleurs que vous avez passé une merveilleuse fin de semaine, soit dit en passant. Imagine Dragons avec Believer. Le volume au max à Boulevard 102.1.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Till it broke up and it rained down like.
Hey, make me a believer, believer. Hey, break me down, you build me
transmissions will resume. I'll try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth again.